VOA Afrique, les infos. À Washington.
Eric Maniakidza encore avec vous dans ce bulletin d'information. Dans 5 minutes, votre rendez-vous du dialogue des religions. Mais d'abord, les nouvelles du monde. Après le Cameroun, le président français Emmanuel Macron est au Bénin. Deuxième étape de sa tournée africaine qui le conduira ensuite en Guinée-Bissau. À Cotonou, le chef de l'Élysée s'en est pris une nouvelle fois à la Russie. La sécurité et la restitution des objets d'art étaient aussi au menu. Le ministre russe des Affaires étrangères a appelé mercredi à Addis Abeba les pays en développement, notamment africains, à ne pas soutenir un monde régi par les États-Unis, les avertissant qu'ils pourraient être les prochains à subir les foudres américaines. Sergueï Lavrov s'adressait à un parterre de diplomates majoritairement africains à l'ambassade de Russie en Éthiopie, dernière étape d'une mini-tournée africaine qu'il a aussi conduit en Égypte, au Congo-Brazzaville et en Ouganda. De son côté, le président Emmanuel Macron en visite au Bénin a accusé la Russie d'être l'une des dernières pratiques courantes l'une des dernières puissances impériales coloniales et de mener une nouvelle forme de guerre hybride dans le monde. Dans l'est de la RDC, la police a été déployée mercredi dans plusieurs villes où des manifestations contre la mission de l'ONU ont fait 15 morts la veille, dont 3 casquets bleus. Des manifestations contre la MONUSCO ont éclaté lundi et mardi dans plusieurs villes du Nord Kivu. Des manifestants ont saccagé, pillé et détruit des installations de la mission onusienne à Goma, Butembo ou encore à Niamilima. Dans la ville de Beni, des groupes de jeunes ont barricadé des artères dans le centre des affaires où des magasins et des commerces sont restés fermés. Des centaines de militaires et miliciens burundais ont été envoyés clandestinement dans l'est de la RDC depuis fin 2021 pour traquer le groupe rebelle Red Tabara, affirmé ce mercredi dans un rapport l'ONG Initiative pour les droits humains au Burundi. La campagne pour les élections du 9 août au Kenya a une conséquence inattendue. Les distributions de billets, pratiques courantes notamment dans les meetings, ont provoqué une pénurie de petites coupures dans les banques, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur. Les gens ne travaillent pas, ils se tiennent au bord de la route juste pour obtenir 200 shillings de tous ces blanchisseurs d'argent, a poursuivi le ministre. Ces pots de vin sont théoriquement passible d'une amende pouvant aller jusqu'à environ 17 000 euros et 6 ans de prison. L'Union européenne a pris note des résultats provisoires du référendum constitutionnel en Tunisie et a appelé les autorités à préserver les libertés fondamentales dans une déclaration publiée par le chef de la diplomatie Joseph Borrell. L'Union européenne constate que le référendum du 25 juillet a été marqué par une faible participation et insiste sur la nécessité d'un large consensus entre les forces politiques et la société civile pour toutes les formes politiques et économiques importantes qu'entreprendra la Tunisie. La légitimité et la durabilité de ces réformes en dépendra, insiste la déclaration. Ailleurs dans le monde, le président américain Joe Biden a reçu 2 tests négatifs au Covid-19 après 5 jours de confinement et de traitement contre la maladie et peut désormais sortir de son isolement, a annoncé son médecin dans une lettre publiée mercredi par la Maison-Blanche. Il avait été testé positif le jeudi 21 juillet. La Chine affirme une opposition ferme à une potentielle visite à Taïwan de Nancy Pelosi, patronne de la Chambre des représentants, et avertit que Washington devrait en assumer toutes les conséquences. Joe Biden doit s'entretenir demain avec le président chinois Xi Jinping. La Banque centrale américaine Fed a annoncé mercredi une 4e hausse d'affilée de ses taux directeurs, les relevant de 3/4 de point de pourcentage pour les situer entre 2,25% et 2,50% et prévoit de poursuivre ce mouvement face à l'inflation qui reste très élevée. Il s'agit de la 4e hausse des taux consécutive, sa plus forte hausse depuis 1994. Le Sénat a adopté mercredi une proposition de loi qui prévoit 52 milliards de dollars pour relancer la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Rendez-vous dans quelques secondes avec le dialogue des religions.